enfin, demander pour savoir qu'est-ce qu'il est utile de préciser ou pas, qui connaît Poul Anderson, qui a lu Poul Anderson, qui le connaît bien, qui le connaît un peu, qui le connaît bien.
Pas personnellement.
Qui connaît bien son œuvre. Bon, personne. Donc, qui le connaît un peu. Bon, alors ça va. Donc, si vous connaissez un peu Poul Anderson, vous savez que c'est un auteur qui a une œuvre extrêmement abondante, puisqu'il a commencé à publier en 1947 et il s'est éteint en 2001. Il a publié plus d'une centaine de livres, une quantité extraordinaire de récits courts, dans des registres très variés. C'est quelqu'un qui a surtout fait de la science-fiction, bien entendu, mais il a aussi fait des fantaisies. Ça a été un des inventeurs de la fantaisie moderne, puisque dès 1954, il écrivait un livre, L'épée brisée, qui présente de remarquables parallèles avec Le Seigneur des Anneaux. Il s'est inspiré des mêmes légendes, en fait. Il a aussi écrit, durant sa carrière, quelques romans policiers, pas beaucoup, des récits purement historiques, et puis quantité d'autres choses, des essais, des poèmes, des balades, des jeux de mots absolument pourris que je vous épargnerai, etc., etc. Mais je vais me contenter de l'essentiel pour vous situer un peu Poul Anderson. Donc, né le 25 novembre 1926, d'ascendance danoise, ce qui est très important pour comprendre son œuvre, même s'il est né aux États-Unis et qu'il a vécu en grande partie aux États-Unis, très tôt orphelin de père, à l'âge de 11 ans, si les souvenirs sont bons, donc en 1937, ce qui a incité sa mère à retourner vivre au Danemark avec le petit frère qui était né entre-temps, et très très vite elle s'est rendue compte que la guerre allait éclater. Donc, comme elle était veuve de l'Américain, que ses deux enfants étaient nés sur le sol américain et citoyens américains, retour aux États-Unis. Alors, jusqu'à présent, Léon Anderson avait vécu dans le sud, stricto sensu dans l'état du Texas, mais en fait dans la partie du Texas qui est la plus proche de la Louisiane, donc ambiance très sudiste, Nouvelle-Orléans, etc., à peu près. Et après diverses vicissitudes et un petit séjour aux alentours de Washington, Madame Dove Anderson a décidé de s'établir comme fermière dans le Minnesota, c'est-à-dire dans l'Amérique profonde, rurale. Et là, ça a été l'enfer pour le jeune Poul, qui déjà était un peu asocial du fait de handicap. Il était à moitié sourd suite à un petit mal soigné, je résume. Et il était très très malheureux dans son enfance jusqu'à ce qu'il découvre la science-fiction. Grâce à un copain de classe, qui, alors qu'il était malade, lui a envoyé des magazines pour se distraire. C'était, bon, 1939-1940. Coup de peau, c'est à ce moment-là qu'est apparu l'âge d'or de la science-fiction aux États-Unis, que dans une revue qui s'appelait Astounding, se sont trouvés révélés coup sur coup en l'espace de 4 ou 5 ans Robert Heinlein, Theodore Sturgeon, Isaac Asimov, bien d'autres. Et Poul s'est mis à écrire en collaboration avec son copain avec qui il avait gardé des liens, et puis bientôt tout seul. Et à 18 ans, même pas à 17 ans, il publiait une première nouvelle, une courte pochade, dans une rubrique réservée aux lecteurs, dans la Standing. Une fois sa scolarité achevée, il entame des études scientifiques à l'université la plus proche, physique, etc., puis astronomie, et il continue à soumettre des nouvelles, et en 1947, la première véritable nouvelle sérieuse est publiée, en collaboration avec son copain dont j'ai déjà parlé, qui lui avait fourni une partie des idées. Et petit à petit, à mesure qu'il poursuit ses études, il s'aperçoit qu'il n'a pas le niveau pour devenir un scientifique de pointe, même s'il a de solides connaissances, il connaît bien ses cours, etc. Il adore écrire. En plus, il a fait la connaissance d'un club de science-fiction basé à Minneapolis, et il se liera plus particulièrement à deux personnes, un écrivain déjà établi et très connu, qui s'appelle Clifford Lessimac, l'auteur de Demain les chiens, qui lui donnera quelques conseils, et un jeune écrivain débutant de son âge qui deviendra son ami le plus proche, Gordon Dixon. Et Poul Anderson commence à vivre par la science-fiction, puisqu'il publie de plus en plus. On voit ses nouvelles un peu partout dans les magazines à cette époque, et pour la science-fiction, c'est-à-dire qu'il commence à fréquenter les ancêtres d'un festival comme celui-ci, les conventions de science-fiction qui réunissent au mieux quelques dizaines de personnes, et il commence à se faire des amis parmi les écrivains, qui accueillent le débutant avec joie, qui lui donnent des conseils, qui le font participer à leur soirée, etc. Donc ça devient un peu une nouvelle famille pour lui. Et en même temps, il décide, puisqu'on n'a pas oublié ses séjours au Danemark, quand il était enfant, il décide de voyager en Europe. Alors, il fait plusieurs voyages d'importance. La première fois, je crois que c'était avec son frère, en Angleterre, dans les auberges de jeunesse et à vélo. Je pense qu'ils ont fait aussi un petit séjour sur le continent. Et la deuxième fois, il avait prévu de faire un voyage beaucoup plus long, beaucoup plus élaboré en Europe, avec son frère et sa mère, leur mère qui venait les rejoindre. Et là, en motocyclette, alors là, le Danemark, l'Allemagne, la France, un peu partout. Et donc, il commence à se préparer, et c'est à cette époque qu'il devient très prolifique, parce qu'il s'aperçoit qu'il y a encore des revues de science-fiction qui publient des textes d'aventure pure, sans prétention scientifique, des space opéras, des ancêtres de Star Wars, des histoires d'action sur des planètes exotiques. Il s'aperçoit qu'il arrive à en écrire assez vite, des très bonnes, qui sont acceptées. Donc, pendant un ou deux ans, il laisse tomber la science-fiction, entre guillemets, sérieuse, et il se met à fond là-dedans pour gagner de l'argent, pour financer son voyage en Europe. Donc tout ça se prépare très très bien, et puis arrive l'été 1952, une nouvelle convention mondiale, il s'y rend, il y rencontre plein de gens, et il tombe amoureux. Une jeune fan de science-fiction de son âge, un peu plus jeune, ils passent tout leur temps ensemble. Et puis, bon, il s'aperçoit qu'après, il correspond, parce que lui, il est toujours à Minneapolis, elle était dans le Kentucky, donc pas mal de kilomètres, ils correspondent, ils se plaisent de plus en plus, et malheureusement, il avait promis de partir en Europe. Donc, il réussit à la voir avant de partir en Europe, il fait son périple en Europe, et à l'origine, il avait prévu de s'attarder un peu, une fois que son frère et sa mère seraient rentrés au Bercail. Et là, il faudrait rentrer, mais il n'avait pas prévu d'y aller de retour. Donc, il ronge son frein, il finit par rentrer aux États-Unis, il retrouve sa fiancée, Karen, et il décide, bon, ben, on va se marier, mais où est-ce qu'on va vivre? Alors, pour Anderson, Minneapolis, il avait un peu marre, c'était quand même un peu un trou. Il n'avait pas envie de vivre à New York, et il avait déjà séjourné en Californie, donc il décide de s'établir à San Francisco. Ils arrivent à San Francisco. Ils se marient une fois qu'ils ont trouvé un appartement, et leur fille naît en 1954. Et à ce moment-là, Poul Anderson va gagner sa vie uniquement par l'écriture. Alors, il faut, pour situer un peu, même si ça n'a pas d'importance par rapport au voyage dans le temps, quand ça a une importance historique, vous allez voir, il y a beaucoup question d'histoire dans ce qui va suivre. La vie d'écrivain de science-fiction professionnel, c'est-à-dire qu'il ne fait que ça, à cette époque-là, c'était excessivement difficile. Il a dit quelque part, dans un article, que, à part les auteurs de pornographie, on était le dernier barreau de l'échelle. C'est-à-dire que ce n'était pas considéré. Les magazines payaient mal. Parfois, ils payaient avec beaucoup de retard. Quand on réussissait à publier un bouquin, et toujours en édition de poche à bon marché, parce que les livres prestigieux étaient interdits à la science-fiction, encore que ça commençait à changer, vous envoyez un bouquin, l'éditeur vous dit, bon, l'éditeur, non, ne vous dit rien. Il dit, ah, ça ne rentre pas dans le nombre de pages prévues, il y a une page de trop, on va couper de ci, de là, etc. Bon, aucun respect. Mais il s'approche, et bon, en même temps qu'il publie des romans sans prétention, mais qui rapportent de l'argent, il commence à prendre de l'envergure dans les thèmes qu'il traite. Il réfléchit beaucoup. Il y a certaines de ses histoires qui attirent l'attention. Il n'y avait pas encore de prix littéraire de SF à cette époque, mais néanmoins, il attire l'attention sur lui. Et on en arrive, grosso modo, à 1955, qui est la période qui nous intéresse, parce que c'est en 1955 qu'il crée la Patrouille du Temps. Alors, deux choses que je n'ai pas dites, c'est que, dès le début de sa carrière, Poul Anderson avait envie de faire des cycles d'envergure, c'est-à-dire des séries de récits, de romans, plus ou moins courts, avec un décor commun, mais pas seulement un décor, une société qu'il montrerait en train d'évoluer au fil des textes, même s'il écrivait ses textes dans le désordre, il avait le plan bien prévu. Et là, son modèle, c'était l'auteur de science-fiction que l'on considérait le plus grand à l'époque, Robert Heinlein, qui avait révolutionné le genre, notamment parce que, contrairement à ses prédécesseurs, il avait inventé ce concept d'histoire du futur. C'est-à-dire, on imagine un futur, des événements qui se succèdent. On montre les changements dans la société, etc., et on construit une histoire imaginaire. Et cette passion pour l'histoire, c'est peut-être à cause de ça qu'ils s'intéressent au voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, c'est un vieux thème de science-fiction. Bon, on ne va pas remonter aux origines, etc. Remontons à Wells, H.G. Wells, la machine à explorer le temps. Je me souviens plus de la date exacte, mais c'est avant 1900. Wells a été le premier, du moins dans les écrivains anglo-saxons, il y a un Espagnol qui avait l'idée avant lui, mais il n'était pas connu en Angleterre, a été le premier à imaginer qu'on puisse voyager dans le temps à l'aide d'une machine, à l'aide de la technologie. Parce que le déplacement dans le temps, vers le passé ou vers le futur, il y avait des précédents. La fameuse légende de Rip Van Winkle aux États-Unis, quelqu'un qui s'endort et qui se réveille quelques siècles après. Donc décalage dans l'histoire, le passé juge le futur, ou le roman de Mark Twain, Ayant dit à la cour du roi Arthur, principe inverse. Par des moyens pas tellement bien expliqués, un Yankee de l'époque de Mark Twain, c'est-à-dire de la fin du 19e, qui se retrouve à la cour du roi Arthur. Bon, si tant est qu'elle a existé, si tant est que ça soit de l'histoire. Donc l'idée de se déplacer dans le temps, c'était déjà connu. Et Xavier Mauvaisjean a consacré son cours du soir au sujet l'autre jour, même si c'est limité à des romans parus dans les années 70 et suivantes. L'idée d'un homme de notre époque, ou de l'époque de la rédaction du récit, tombant amoureux d'une femme vivant dans le passé parce qu'il a été ému par un tableau, par une photo, etc., et qui finit par la retrouver par des moyens évidemment qui n'ont rien de scientifique, c'est un thème bien connu qui a été exploré au 19e siècle et au début du 20e. Mais le voyage dans le temps, par la maîtrise de la technologie, à la fin du 19e siècle, c'est nouveau. Et évidemment, Wells a inspiré quantité de gens, surtout. Parce que Wells était considéré comme un grand auteur de littérature, tout court, et pas seulement le fondateur de la science-fiction, mais Wells a inspiré beaucoup de gens, des auteurs spécialistes de la science-fiction d'aventure. C'est-à-dire des histoires de cavalcades dans le temps, de paradoxes temporels, de boucles temporelles, etc. Tout ça, dans un premier temps, s'était traité sans se soucier des conséquences. Pas toujours à l'extérieur, on envoyait des gens au 5e siècle, on les faisait se battre à coups de fusil contre les Romains, enfin bon, j'invente, etc. C'était de l'aventure pure et dure. À une exception près, un auteur que Paul Anderson appréciait beaucoup et qui devenait devenir un de ses amis, et qui s'appelle Lion Sprague de Camp. Alors je prononce son nom à l'anglaise, mais Lion Sprague de Camp, il avait des ancêtres français, qui avait imaginé, dès la fin des années 30, un Américain de son époque, qui se retrouvait projeté, alors c'était dans la Rome du 6e siècle, je crois, oui, dans De peur que les ténèbres, et qui décidait de changer le cours de l'histoire en introduisant de la technologie dans le monde romain décadent. Donc, je passe les détails, et il réussissait effectivement à changer l'histoire, à créer ce qu'on appelle aujourd'hui une uchronie. C'est à peu près le seul exemple rigoureux d'utilisation du voyage dans le temps. Et il est intéressant de voir, à ce titre, quand Poul Anderson a débuté, avant de créer la patrouille du temps, à quel motif, quelles images, quel thème s'est-il intéressé? Et bien d'abord, ce qui est frappant, c'est que dans la demi-douzaine de récits consacrés au voyage dans le temps, il traite tous les moyens, un par un, chacun son tour, tous les moyens envisagés. C'est-à-dire la maîtrise d'une technologie, l'hibernation, bah, évidemment c'est un coup classique, hein, rappelez-vous l'homme à l'oreille cassée, l'aide mon amour, l'échange de masse, c'est-à-dire qu'on prend trois personnes à notre époque, on vise avec une sonde temporelle une époque du passé, on trouve trois autres personnes et hop, presto changeo, les uns se retrouvent à la place des autres. L'accident nucléaire, un accident nucléaire et paf, quelqu'un qui était pas loin se trouve précipité dans le passé. Et le voyage supraluminique. Évidemment, quand vous voyagez, faites un voyage interstellaire, bon, Roland Lehoucq a consacré une très belle conférence à ce sujet, faites un voyage interstellaire, vous revenez, vous avez vieilli de X années, et deux ou trois siècles sont écoulés sur Terre, donc vous arrivez dans le futur. Bon, évidemment, on ne peut pas parler. Et dans tous les cinq ou six titres que j'ai recensés, il y a une très grande variété. Il n'est pas difficile. Ce qui est important pour lui, c'est le moyen pour arriver à une fin. Vous voyez, parce que, bon, bien évidemment, je n'ai pas fait de recherche approfondie sur la doxa scientifique de cette époque, mais je ne pense pas que quelqu'un, un scientifique sérieux, ait envisagé dans les années 50 que le voyage dans le temps était possible. Hein. Enfin, bon, on, certains qui interprétaient plus ou moins de façon déviée la théorie de la relativité le pensaient, mais bon, c'était un jeu, c'était avant tout un jeu intellectuel. Donc, dans les moyens, une très grande variété. Mais dans les fins, qu'est-ce qui se passe dans ces voyages temporels? Qu'est-ce qui l'intéresse dans le traitement du thème? Eh bien, j'ai trouvé deux types de traitement d'histoire. D'abord, l'aventure pure et dure, comme tout le monde. Et bon, je veux dire, lui, il a fait dans, parmi les récits dont je vous parlais, qui étaient vraiment du Star Wars dans la lettre, il a fait une histoire de voyage dans le temps où là, on suppose l'existence d'une technologie qui est capable de faire ça, mais où elle a été dévoyée par des bandits qui s'en sont emparés, qui se sont aménagés un repère dans les temps préhistoriques et qui, à partir de là, font des raids sur diverses époques pour se partager les modèles. Alors, quand la première fois que j'ai lu cette nouvelle, j'ai lu très tardivement, parce que Blanc-Merson, maintenant, je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il a publié, mais c'était parfois difficile à obtenir. C'est le genre de nouvelle, vous avez l'impression d'un petit garçon, pas une petite fille, hein, à l'époque, une petite fille, elle ne faisait pas ça, maintenant, si sûrement, un petit garçon qui se retrouve avec des cow-boys, des soldats romains, des chevaliers, des cosmonautes qui décident de tout mélanger pour jouer et faire jouer les uns avec les autres. C'est exactement l'impression que m'a donné cette nouvelle qui est jubilatoire et que j'ai l'intention de traduire pour un prochain volume. Je n'ai pas précisé, mais je suis le principal traducteur de Boulogne-Mersin.
Elle s'appelle comment ?
Alors cette nouvelle, elle s'appelle The Nest, le nid. Et elle est parue dans les années 50. Et donc, à part ces récits d'aventure, ce qui semble le préoccuper le plus dans le thème du voyage temporel, du déplacement temporel, c'est le déplacement temporel, pardon, ils n'ont pas prévu une bouteille d'eau, chien. C'est le choc des cultures. Et ça, c'est très flagrant. Parce que c'est peut-être en réaction à ce roman de Sprague de Camp dont je vous ai parlé, de Peur que les ténèbres, où, pour Sprague de Camp, il est acquis que l'Américain du XXe siècle qui débarque chez les Romains, évidemment, il va leur montrer comment ça marche. Hein, je suis le plus fort, j'arrive, vous allez voir, ça va s'arranger, je vais, bon, la roue, vous l'avez déjà inventé, mais vous connaissez le balancier, vous connaissez le levier, vous connaissez ceci, la machine à vapeur, vous ne connaissez pas, hein, bon, on va voir. Lui, il nous montre des personnages qui se déplacent dans le temps, et je vous donne les exemples. Un soldat américain posé, un soldat américain posté dans une base en Islande, au XXe siècle donc, en pleine guerre froide, est catapulté au Xe siècle, toujours en Islande, par un explosion nucléaire, et en dépit de ses connaissances, sinon supérieures, du moins plus étendues, de sa maîtrise de tout l'équipement qui l'a survie, il est absolument incapable de survivre au sein de cette société dont il ne maîtrise pas les codes, les coutumes, etc. Il est obligé de mourir. Un homme atteint de maladies incurables se fait congeler, se met en hibernation, jusqu'à ce que la science ait suffisamment avancé pour qu'on puisse le guérir. À ce moment-là, on le réveille. Et la société, les mœurs, les présupposés, les prérequis, le langage, tout a tellement changé qu'on est obligé de recongeler, il ne peut pas s'intégrer. C'est vraiment impossible. On essaie même de lui trouver un poste, genre gardien de phare, pour qu'il vive tout seul dans son coin, ça ne marche pas. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'échange de masse, c'est-à-dire on prend trois hommes du XXe siècle, on les échange avec trois hommes de la Rome antique, et à la surprise générale, les trois scientifiques envoyés dans la Rome antique, ils se retrouvent tous tabassés, ou en prison, ou menacés de crucifixion parce qu'on les prend pour des sorciers. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent absolument pas à s'en sortir parce qu'ils sont totalement dépassés, alors que les trois Romains qui, bon, ben c'est pas de peau, hein, ils appartenaient tous aux classes criminelles, et bien au bout de. Ils réussissent à s'enfuir du labo ultra secret, et au bout d'un an, c'est les caïds de la paix ou la paix. Bon, vous voyez, c'est un peu à contre-pied, voilà. Et alors, un peu plus tard, Blanc-Garçon écrira une très très belle nouvelle qui. L'aidera à cultiver une de ses plus grandes amitiés, une nouvelle qui s'appelle Souvenir lointain, où là, c'est une projection mentale. Bon, évidemment, l'argument scientifique n'est pas la route, mais on réussit à projeter un homme contemporain dans le cerveau de ses ancêtres, qui se trouve être un homme de Cro-Magnon. Donc, il passe quelque temps chez les Cro-Magnon, il réussit à sauver la fiancée de son hôte. D'un méchant néandertal, et en fait, le temps qu'on le ramène au XXe siècle pour. qui fasse son rapport, qui est tombé amoureux et il regrette vraiment de ne pas être resté là-bas. Donc vous voyez, par rapport, si on étudie la science-fiction de son temps, par rapport au voyage dans le temps tel qu'on le traitait à l'époque, c'est assez novateur parce qu'il y a des grands bouquins de voyage dans le temps. Je pense à un bouquin de son ami Clifford Simak qui s'appelle, il y a eu plusieurs titres, mais je pense que le plus connu c'est Dans le Torrent des siècles. Où dans le Torrent des siècles, il y avait des sauts dans le temps parce qu'il y avait un conflit entre deux visions politiques qui cherchaient à manipuler les époques, etc. C'était un roman très complexe, un peu Van Goghtien, on va dire, Van Gogh aussi. Les civilisations les plus célèbres du voyage dans le temps dans Van Gogh, c'est dans le cycle Les armures du chien et les fabricants d'armes, où il y a une personne qui se fait remonter à l'origine des temps, mais son voyage a accumulé en lui une telle énergie qu'il explose, et ça fait le Big Bang. Donc le gros paradoxe temporel, bien voulu. Alors, l'idée de la patrouille du temps, par contre, c'est une idée neuve. Alors, il existait déjà dans la SF des idées de patrouille censées mettre de l'ordre dans l'espace-temps. La plus connue, c'était une patrouille qui veillait à ce que les univers parallèles ne se rejoignent pas. C'est-à-dire qu'il y a un univers ici, il y en a un là, on ne passe pas de l'un à l'autre parce que ça fait le bazar. Pour Anderson, lui, il suppose qu'il existe, dans un futur infiniment lointain, des descendants de l'humanité, les Danélianes, Danélian en anglais, Danélien en français, et dont la création, dont l'avènement est l'aboutissement de toute une histoire, de tout un déroulement de faits historiques qu'il tient à préserver. Donc, le jour où quelqu'un invente un voyage dans le temps, paf, il est là. Et ils expliquent, ok, vous avez trouvé, c'est bon, maintenant on prend les choses en main. Et donc, ils créent la patrouille du temps en recrutant des agents dans toutes les époques, ou du moins dans toutes les époques où les gens peuvent comprendre des concepts tels, dans toutes les époques et dans toutes les sociétés, parce qu'il y a certaines époques où telle société peut le faire et telle autre pas. Peuvent comprendre le concept de déplacement dans le temps, le concept de technologie, etc., et qui puissent faire des agents fiables et indépendants. Et le but de la patrouille du temps, c'est de vérifier à ce que l'histoire se déroule de façon correcte. Et là, on va voir que comme Asimov avec ses robots, vous cherchez tous les moyens de les faire dysfonctionner, c'est exactement ce que va faire Anderson. Évidemment, ça doit être comme ça. Bon, évidemment, ça marche jamais. Et aussi, ça on le voit en filigrane dans le début du cycle, c'est un cycle très long. Hein. Il y a en tout, la première édition française, c'était 4 volumes. 4 volumes de longueur plus ou moins variée, mais 4 volumes, ça fait 2 beaux gros volumes en intégrale, au frais pour le même. On voit que les patrouilleurs sont aussi des historiens de terrain. C'est-à-dire, quelqu'un qui a étudié une histoire, l'histoire d'une certaine période, certaines époques, et qui est repéré par la patrouille, on le soumet à quelques tests, on le surveille, et si on dit qu'il a les qualités, il a les torts pour faire un patrouilleur, c'est-à-dire pour aller étudier sur place ce qu'il a étudié dans les livres, dans les documents, eh bien c'est précieux parce que ça montre à la patrouille davantage de précision qu'elle n'en connaissait sur telle ou telle période. Il y a des périodes qui sont cruciales, en fait toutes les périodes sont cruciales parce que phénomène bien connu, une petite goutte d'eau qui grossit, qui grossit, qui grossit, etc. Donc on va voir, là je vais détailler un peu les histoires de la patrouille du temps. Ça va être un peu pénible parce que j'ai l'impression de me répéter, mais ça c'est pour une bonne raison. Et cette raison, je vais l'expliquer. La patrouille du temps, au début, c'est 4 longues nouvelles qui ont été publiées dans les années 1950 et 1960. En 1975, Poul Anderson a rajouté une nouvelle qui semblait un peu mineure, moins dramatique que les précédentes. Et en 1979, alors qu'il était venu en Europe, plus précisément en Angleterre, à la Convention mondiale de Brighton, j'ai deux amis qui l'ont interviewé. L'interview est parue dans une revue française à l'époque et ils lui ont posé quantité de questions. Et ils lui ont posé une question sur la patrouille du temps. Il lui dit, est-ce que vous comptez donner une suite à cette série? Et voilà ce qu'il a répondu, je cite, « Je ne pense pas ajouter d'autres histoires au cycle, car pour autant que je puisse en juger, l'idée a maintenant été utilisé au maximum et je ne vois pas d'autres développements possibles. Il me semble inutile d'écrire à nouveau les mêmes histoires. 1979. 1983, parution de Nouveau. Alors, que s'est-il passé? Et on pourrait, en jugeant sommairement, croire qu'il se répète. Et effectivement, donc, les cinq premières nouvelles d'un côté, ensuite, en succession rapide, 1, 2, 3, 4 courts romans, qui donc font deux romans par volume, et puis, pour finir, un grand roman qui conclut le texte, et un petit épilogue, une nouvelle mineure, mais qui nous montre les mêmes personnages. Et on a l'impression qu'effectivement, tiens, cette histoire-là, où il va dans tel milieu pour faire ceci, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle telle histoire. Alors, est-ce qu'il se répète? Non. Il amplifie, il approfondit. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il n'avait pas tout dit, qu'il avait effleuré le sujet. Et alors, là, c'est une hypothèse personnelle que je veux lire en exclusivité mondiale. Mais je veux dire, parce que, en préparant, bon, je connais bien l'œuvre de Poul Anderson, j'ai traduit, à part les cinq premières nouvelles qui avaient été traduites à l'époque, j'ai traduit tout le reste, donc je suis rentré dedans, j'avais une intuition, lorsque j'ai fini le livre, il y a quelques années, le dernier livre, j'avais une intuition, je me disais, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas, et si, oh non, c'est trop bon. Et, en préparant, donc je vous remercie, c'est grâce à vous, en préparant ce cours du soir, j'ai relu en diagonale les textes en m'attachant aux personnages. Parce que je me souvenais bien des péripéties historiques, des scènes d'action, etc. Je me suis attaché aux personnages. Et j'ai vu apparaître des motifs récurrents qui m'ont frappé de plus en plus, parce qu'une fois que je les ai vus dans tel ou tel texte, je les ai vus partout, je suis revenu sur la première partie du cycle, les cinq nouvelles, et je les ai vues effleurer, effectivement. Et en fouillant dans ma bibliothèque andersonienne, qui est assez fournie, j'ai retrouvé la réédition du tout premier volume, donc des cinq nouvelles, avec une postface d'une critique, et je me suis aperçu qu'elle avait remarqué la même chose que moi. Ou alors je m'en suis souvenu parce que inconsciemment ça travaillait là-dedans. Alors on va rentrer dans le dur là. On va rentrer dans le dur. Commençons par le début. Alors, le personnage principal de cette série, celui qui est dans tous les textes, s'appelle Mance Everard, plus exactement Manson Emmert Everard. Alors, je vous cite son nom parce que chez Poul Anderson, je ne sais plus comment on appelle ça, le fait de donner des noms, de citer des noms, enfin, d'abord, les noms ont une importance. Et Manson, ça rappelle mansion, c'est-à-dire maison. Everard, toujours dur. Effectivement, c'est un personnage qui, au fil du cycle, va s'endurcir, parce qu'il va assister à quantité d'atrocités, parce qu'évidemment, on ne va pas l'envoyer explorer les jardins de Babylone, non, on va l'envoyer en plein milieu des batailles, des pillages, etc., qui va s'endurcir. Donc, Mance Everard, il est né en 1924. C'est un fils de fermier du Midwest. C'est-à-dire qu'il vient du même milieu que l'auteur, mais il est né 2 ans plus tôt. Ce qui lui a permis de participer à la guerre, de s'engager, puisqu'à partir de 18 ans, on le veut, donc il s'est engagé 1924 plus 18, 1942, alors que Poul Anderson, 1926, il aurait pu s'engager en 1949, et il l'a fait d'ailleurs, il l'a voulu. Mais je vous ai dit qu'il était handicapé, hein, il avait souffert d'une infection d'une otite qui a très très mal évolué, qu'il a rendu sourd. En plus, il maîtrisait mal son équilibre, c'est une des raisons pour lesquelles il a arrêté la physique. Au labo, il faisait des catastrophes. Et donc, Manson Everard, pour moi, je me suis aperçu que c'était un peu un double idéalisé de l'auteur. C'est son porte-parole, son représentant. Et au fil des épisodes, surtout dans ses relations avec les femmes, Manson Everard insistera à dire ben, je suis un brave gars du Midwest, hein, je viens de. Enfin, j'ai été élevé comme ça, je suis un peu traditionnel. Bon. C'est vraiment récurrent. Hein. Il garde le même caractère, même s'il est, il est capable d'évoluer. Pour moi, c'est le but de l'auteur. Donc, Mance Everard, en 1955, cadre soldat, ingénieur, qui a brûlé un peu partout dans le monde. Il subit une série de tests en répondant à une petite annonce. pour un boulot non précisé, mais qui est à l'étranger, donc il faut être sans attache pour pouvoir voyager. Il remplit toutes les conditions et on va le faire voyager. On va le faire voyager dans le temps. Et c'est là qu'il découvre l'existence de la patrouille du temps, il découvre quel va être son rôle, et ensuite on voit ses études. C'est-à-dire qu'il va à l'académie, alors l'académie qui est située dans un coin tranquille, c'est-à-dire en plein air au Ligocène, là il ne peut pas être dérangé. Et il fait la connaissance d'un autre patrouilleur élève comme lui, celui d'amitié. Et puis chacun d'eux retourne dans son époque, qui est à peu près la même, puisque Mansé Laurent lui retourne dans le New York de 1955, son copain Charles y retourne dans le Londres des années 50. Et un jour par hasard, dans un texte, c'est des récits dont j'ai oublié le titre, où il y a un docteur qui raconte des aventures de son ami détective, il trouve l'allusion à un incident très bizarre, il fouille les journaux de l'époque, il voit effectivement comment on en a parlé, et il se dit, ça, ce genre de truc, ils ont trouvé dans ce coffre un objet radioactif. En 1894, c'est quand même bizarre. Donc, il fait un rapport, on lui dit, oui, rendez-vous sur place avec le correspondant londonien, ils y vont, et effectivement, il y a une aventure, tout en rebondissement, où ils s'aperçoivent qu'un voyageur du temps est arrivé dans une certaine époque, 6e siècle, pour changer l'histoire en Angleterre, et il en empêche, fin de l'histoire, hop, on rentre chez soi. Sauf que le brave Charles, il n'est pas rentré chez lui. Il n'est pas rentré chez lui parce que la fiancée de Charles, elle est morte pendant le Blitz, durant la Seconde Guerre mondiale à Londres, et là, il a décidé de la sauver. Ce qui est strictement interdit. On ne change pas le cours de l'histoire. Alors du coup, Mance, qui s'y attend, ils vont s'en apercevoir dans les échelons supérieurs, ils vont lui tomber dessus, tout va être foutu, je vais tenter de lui sauver la mise. Donc il fait lui aussi une bêtise, c'est-à-dire qu'il va à Londres, mais en se débrouillant pour atterrir 2 jours avant le bombardement, il surveille les lieux, il repère la fiancée de son copain, il la convainc de ne pas aller à la soirée qui est organisée ce soir-là, et quand le copain arrive, il trouve Mance qui lui dit « Tu te tais, tu me laisses faire », mais et hop, il y a des patrouilleurs qui apparaissent pour les arrêter, ils les neutralisent parce qu'évidemment ils s'attendaient à leur arrivée et ils leur expliquent la situation, ils disent mais de toute façon là ça y est, le bombardement est fini parce qu'entre temps effectivement les bombes ont tombé et elle n'est pas morte, donc l'histoire a déjà changé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je veux un Danélien. Ah, c'est pas fou, non. Et paf, il y a un Danélien qui apparaît et le Danélien lui dit oui, vous avez fait une bêtise, mais celle-ci était connue et enregistrée dans nos archives, nous ne savions pas comment ça allait arriver, mais nous savions que ça arriverait. Donc, bah, écoutez, vous allez avoir des sanctions, mais votre ami et sa fiancée, elle survit. Alors, l'ami et la fiancée, pour disparaître, ils déménagent à Londres, mais durant l'époque victorienne, c'est-à-dire qu'ils changent d'époque. Et Mansé Laurent, qu'est-ce que je fais maintenant? Visiblement, vous n'êtes pas apte à tenir un poste fixe. Vous allez devenir un agent non attaché, c'est-à-dire que vos missions seront d'aller vous balader dans le temps, de remplir les objectifs au fixe, etc. Enfin, agent non attaché. Non attaché. Retenez bien. Qu'est-ce qui va se passer ensuite dans les aventures de Mansé Laurent? Bon, là, je ne vais pas tout vous raconter. Simplement, en résumé, vous allez essayer de voir, vous allez voir avec moi qu'il se passe des choses quand même assez troublantes. Alors, on va le voir successivement sauver un ami patrouilleur spécialiste de la période babylonienne, qui est parti en mission sur le terrain, et qui, suite à un malentendu, a pris la place de Cyrus le Grand. Oui, c'est lui qui est devenu Cyrus. Alors évidemment, il faut le sortir de là. Et évidemment, comme vous connaissez l'histoire par cœur, il a fait exactement ce que de Cyrus devait faire. Mais et ça fait, lorsque Mance le retrouve, ça fait 35 ans qu'il est là, enfin, il faut le tirer de ce mauvais. Ensuite, on verra Mance éliminer une expédition chinoise dans l'Amérique du XIIIe siècle, qui était totalement inconnue de l'histoire. On sait qu'il y a des Chinois qui sont venus en Amérique, mais pas à cette époque-là. Et c'est très crucial. On le verra pourquoi après. Et puis, remettre l'histoire sur ses rails. Mais alors là, c'est vraiment quelque chose de monumental comme entreprise. Après que la mort de Scipion l'Africain a assuré la victoire de l'animal et créé carrément un autre univers. C'est-à-dire que la nouvelle commence, on voit Mansé Laurent et ses compagnons patrouilleurs qui sont dans la... Ben là, c'est pas le Ligocène, c'est notre époque. C'est l'époque des mammouths et des tigres dans le sabre. Il y a une base de repos de la patrouille où ils chassent le mammouth, ou le tigre dans le sabre, je ne sais plus. Le mammouth, c'est quand même assez dur. Et donc, il décide de prendre un peu de bon temps, et où est-ce qu'on va, etc. Et il y a Banks qui dit à son copain, écoute, la meilleure époque pour s'amuser, c'est le New York de mon époque, quand on connaît bien les endroits, les clubs de jazz, les parents de voir, etc. Et donc, ils règlent leur scooter, parce qu'ils se déplacent, je voulais le préciser, sur des sortes de scooters, qu'ils appellent des sauteurs temporels. Donc, ils règlent leur scooter, ils en font un seul scooter pour deux, ça va, et ils se retrouvent dans un univers totalement différent. Ils sont toujours géographiquement à New York, mais il y a des sortes de grands guerriers gaulois qui avancent avec des chars à vapeur, il n'y a pas un seul gratte-ciel à l'horizon, etc. Ils se font aussitôt capturer et ils finissent par comprendre, en feuilletant les bons livres d'histoire, que l'histoire a totalement dévié à partir d'un certain point. Donc, leur mission, ça va être de s'évader, de récupérer leur sauteur temporel, de retourner avant le changement et de monter toute une opération d'envergure pour empêcher le changement. Ça se fait et malheureusement, là, c'est là que l'histoire prend un tour dramatique. Ils s'aperçoivent que en faisant cela, ils tuent, ils éliminent, ils empêchent d'exister des millions de personnes. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et Mansebra dit, et les millions de personnes de notre histoire, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce qu'on n'a pas le devoir de les faire revenir? Insoluble comme problème, mais ça marque un homme. Et puis, alors, une toute petite nouvelle, celle qu'il a écrite en 1975, alors là, ça se passe en 25 000 avant Jésus-Christ, c'est au moment où la mer Méditerranée cesse d'être une mer fermée. C'est-à-dire que le détroit de Gibraltar s'ouvre, et comme le niveau n'est pas le même, il y a des chutes qui sont présentes un intérêt indéniable pour la patrouille, donc ils les observent, et il y a des agents, une jeune femme d'une époque future par rapport à celle de Mans, une très grande intelligence, d'une très grande beauté, qui va un peu trop près des chutes et qui meurt. Donc il faut la sauver. Et l'autre agent, pas Mans, mais l'autre agent qui est tombé amoureux d'elle, réussira, évidemment, en violant le règlement de la patrouille. Mais Mans dira, l'essentiel, c'est que, bon, évidemment, vous allez violer le règlement, mais le résultat est là, il est sauvé. Donc, on passe. Alors, le premier bilan de ces histoires, je vais essayer d'accélérer un peu, parce que je ne voudrais pas parler que de la patrouille, je ne voudrais pas vous ennuyer avec ça. Premier bilan de ces histoires, c'est que d'abord, c'est vraiment des histoires d'aventure, ça bouge beaucoup, c'est très chatoyant, on voit des décors, alors soit les décors historiques et les personnages historiques sont très très fouillés, très travaillés, et Anderson ne s'y trouvait pas, il a étudié la question, du moins avec la documentation qui était disponible à son époque, hein. Après il est possible qu'on ait découvert d'autres choses. Mais on le voit au fil des aventures devenir de plus en plus complexe, avoir des doutes. Et même dans l'histoire de l'expédition chinoise au XIIIe siècle, il s'apercevra qu'il aurait très bien pu laisser faire ces Chinois, parce que ce n'est pas par suite à une anomalie du temps déclenchée par un pirate ou autre que les Chinois ont atterri en Amérique au XIIIe siècle. C'était parfaitement normal dans le contexte historique. Il y avait des explorations un peu partout, les Chinois allaient jusqu'en Indonésie, jusqu'en Australie, les côtes africaines, etc. Il s'aperçoit qu'en fait, il a mis un terme à cette expédition, et le prix à payer pour son équipier, j'y reviendrai, est encore plus cruel. Il a mis un terme à cette expédition parce que c'était la volonté des Danéliens. C'est-à-dire que les Danéliens, pour corriger, pour respecter l'histoire qu'ils veulent voir se dérouler, l'ont amené à rectifier l'histoire. Donc, c'est un vrai paradoxe qui ne s'est pas expliqué. Et comme il le dit à la fin de la nouvelle, il se résigne, il le dit, c'est le titre original de la nouvelle, c'est un jeu pourri, et c'est le seul jeu dans la ville. It's the only game in town, expression américaine bien connue. Et après, dans la nouvelle suivante, le choc qu'il ressentira en voyant cet autre univers né de la victoire d'Hannibal, le convaincra que il ne peut pas prendre la responsabilité de changer le cours d'histoire tel qu'il le connaît. Parce que l'histoire des Danéliens, c'est aussi la sienne. Il y a tout un tas d'événements qui se sont déroulés avant sa naissance, dont il doit veiller à l'intégrité et le corriger quand on lui ordonne. Parce que si ça se trouve, s'il avait empêché, s'il avait laissé faire cette expédition chinoise, il ne serait jamais né. Il aurait donné naissance à une autre histoire. On n'est jamais sûr de ce qui va se passer, donc même s'il s'y résigne un peu, à présent il va obéir aux ordres, tout en conservant un peu son indépendance de pensée. Voilà. Passons maintenant au second cycle. Je vous avais promis une révélation. C'est vrai que j'ai un peu perdu ça. Alors, c'est une révélation en partie seulement. Je vous ai dit que Poul Anderson était né... Enfin, il a eu un handicap très jeune qui avait forcé à se laisser réformer, etc. C'était un problème à l'oreille, une otite qui en sourde. Et passé la cinquantaine, qui est quelque part là-dedans, je ne retrouve plus, je connais par cœur de toute façon, passé la cinquantaine, il a été atteint d'une mastoïdite. Alors, je vous recommande de regarder, moi j'ai regardé aussi dans Wikipédia et l'autre, le Wikipédia français est un peu sobre, le Wikipédia anglais est très détaillé, c'est quelque chose de très grave, c'est une inflammation derrière l'oreille qui peut entraîner la mort si elle n'est pas soignée à temps. Et sinon, qui peut entraîner tout un tas de handicaps. Il a failli y passer, d'après ce qui se entend. Et donc, c'est arrivé passé la cinquantaine. Poul Anderson est arrivé en 1926, on fait une simple addition, donc c'est arrivé après 1976. Et j'ai remarqué, en scrutant cette bibliographie que j'ai établie depuis la Lurette, qu'en 1981 et en 1982, il n'a rien publié ou presque. C'est quelqu'un qui publiait tous les ans deux ou trois romans courts, ou alors gros romans, pas mal de textes courts, des nouvelles dans les revues, les anthologies, et ces deux années-là, 1981-1982, dans chaque année, une seule nouvelle. Et encore, l'une d'elles est en collaboration. Donc, moi, je pense que cette opération l'a laissé, lui a fait un choc. Sans doute a-t-il eu une longue convalescence. Et il a dû faire un... C'est une hypothèse, hein, je vous dis, mais pour l'instant, j'ai trouvé que des faits qu'il a corroborés. Je pense qu'il a fait un retour sur lui-même. Qu'il s'est posé des questions, peut-être, sur son travail. Qu'il a peut-être relu des trucs en se disant « là, je ne suis pas allé assez loin ». Et qu'il est reparti sur de bonnes bases. Et effectivement, dans les années 80, il a écrit de ses plus grands bouquins, qui est malheureusement inédit en français, qui s'appelle Orion Shall Rise, qui est une histoire du futur, dans sa phase dans le futur post-atomique, qu'on pouvait encore envisager à l'époque, hein, avec quatre civilisations qui se partagent le monde, et qui sont un peu des synthèses de certains aspects des nôtres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande justement ça, c'est moi qui l'ai fait tout seul, tout à l'heure. Et donc, il revient à la patrouille du temps quelques années après cette rupture, et là, ça devient de plus en plus intéressant. Nouveauté. Jusqu'à présent, on l'a vu faire des missions, seul ou en compagnie d'équipiers, et c'était à chaque fois un événement différent, aucun lien entre les autres. Nouveauté, on voit apparaître des ennemis récurrents. C'est-à-dire des personnes qui vont me donner du fil à retordre à plusieurs reprises. Bon, vous me direz, dans une série, c'est assez courant. Hein. Bon, Sherlock Holmes a son Moriarty, les autres exemples. En tant que Moriarty, dans Sherlock Holmes, il apparaît qu'une seule fois. Hein. Bon, c'était un bon exemple, je m'excuse. Ces exaltationnistes, c'est leur nom, ce sont des surhommes. C'est-à-dire, ce sont des hommes génétiquement modifiés durant le 31e millénaire, ça marche loin quand même. Les scientifiques de cette époque voulaient créer carrément une nouvelle race, hein, c'était dans leur discours, capable d'explorer les espaces interstellaires, de survivre à toutes sortes de conditions, etc. Et les exaltationnistes se sont révoltés. Parce que, bon, ben, coup classique, hein, vous créez des surhommes, ils disent, mais c'est ça, nos maîtres, bon. Et ils se sont révoltés et ils ont réussi à découvrir l'existence de la patrouille et à s'emparer de son cœur temporel. Et alors là, leur but. Et quand je dis que c'est des surhommes, c'est vraiment des Nietzschéens. C'est-à-dire, leur but, c'est de semer le chaos partout. Donc, on trouve un point faible de l'histoire, on mène une expédition, on prépare le coup, et soit on s'empare d'un trésor pour alimenter les fonds d'engouement, soit on essaie de provoquer une divergence pour que l'histoire change de cours et que les Daméliens ne viennent jamais, et que la patrouille ne vienne jamais, et du coup, des exaltationnistes à partir d'un certain moment sur les maîtres du monde. Alors, il y a quelque chose de troublant dans ces exaltationnistes, donc je vous ai dit que c'était des surhommes, et c'est aussi des clones. C'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins tous identiques les uns aux autres, sauf qu'il y a parmi eux des hommes, des femmes, etc., qui se ressemblent tous. Et encore autre chose troublante, quand on sait l'importance du travail de Anderson dans le registre de la fantasy. Je vous ai dit qu'avant, il avait travaillé là-dedans, et c'était un des plus grands auteurs de fantasy, mais une fantasy très personnelle. Ça devait, à part qu'il avait quelques sources communes avec Tolkien, son travail ne devait rien à la fantasy et à Tolkien. Il a travaillé parallèlement à l'indépendant. Mais il s'est beaucoup intéressé aux elfes. Mais aux elfes inspirés des légendes, tout comme Tolkien. Et les elfes de Poul Anderson, alors on en voit apparaître dans deux romans qui s'appellent alors L'été brisé, qui est une véritable tragédie, mais vraiment, je pèse le mot, il n'y a pas grand-chose de comique là-dedans. Et dans un roman qui s'appelle Trois cœurs, trois lions, qui est un peu plus léger. Mais les elfes ont le même rôle, ce sont des êtres décadents, qui méprisent les humains, qui sont assez félins d'apparence, très hautains, et qui manipulent un peu tous les humains, les nains, les trolls, etc., pour parvenir à des états d'adaptationnistes dans leur façon. Anderson les fait ressembler à des elfes. Et troisième détail, le chef des adaptationnistes. Il s'appelle, je ne sais pas si je prononce, je pense que bon, c'est une prononciation du 31e siècle, il s'appelle Meraoult Verdagne. Meraoult Verdagne. Mans Sedra. Meraoult Verdagne. Je pense que c'est parfait. Pas au hasard. Je pense que c'est un double. Encore un double. Pas mal de reflets, pas mal de correspondances. Et le point que j'ai remarqué, dont je vous parlais dans toutes les histoires du second cycle après les avoir lues, et le point que Samuel Wiesel, qui a retrouvé son nom, avait remarqué dès 1980, c'est que, alors elle se fondait sur les cinq premières nouvelles, donc il faut faire ceci, il faut faire cela. Dans chacun de ces récits, qu'est-ce qui détermine le dénouement, qu'est-ce qui détermine avant cela le déroulement de l'histoire? Eh bien, ce n'est pas la volonté de redresser les torts, de prévenir une guerre, etc. C'est une histoire d'affection. C'est une histoire de relation. Là, dans la première mission, je vous ai raconté, Mans se rebelle parce qu'il veut aider son ami à sauver sa fiancée. Dans l'histoire du voyageur temporel, du patrouilleur, qui devient malgré lui Cyrus le Grand, qui c'est qui vient chercher Mans pour le secourir? C'est son épouse. Elle a épousé ce patrouilleur, mais Mans était amoureux d'elle, jadis. Elle a choisi son collègue. Donc, ben, il suit son devoir. Parce qu'il se dit à un moment donné, pendant 5 secondes, mais si je laisse tomber, elle va tomber dans les bras. Il dit non, hein, je ne peux pas. Donc, il va sur les Cyrus, donc il le retrouve dans les bras de. Il le retrouve sur l'épouse, et une épouse que maintenant il n'aime plus, parce qu'il ne pense qu'à la concubine de Cyrus. Autre exemple, l'histoire de l'autre univers qu'ils ont anéanti en tuant je ne sais pas combien de millions de personnes, parce que l'histoire de les conserver son cours, et bien il reste un survivant. C'est la jeune femme érudite qui avait reconnu dans leur langue une variante de saxon, etc., parce que tout cet univers-là ne connaît pas les langues anglaises dérivées. Donc c'est une érudite qui avait pu interpréter leurs propos et qui leur avait fait lire le récit d'histoire universelle qui leur avait permis de se repérer. Et bien le collègue de Mans est tombé amoureux d'elle, la ramène dans la réalité. Sauf que maintenant, elle n'a plus personne au monde. Elle est dans un monde où elle ne connaît plus personne. Mais il l'aime. Donc il l'a ramené avec lui et elle l'aime. On peut espérer qu'il va se passer quelque chose. Et l'histoire du juge de Gibraltar, c'est encore une histoire d'amour. C'est la jeune scientifique venue du futur qui se fait tuer par l'apparition du juge de Gibraltar. Le jeune patrouilleur qui est très intimidé par cette femme supérieure, et c'est lui qui va la sauver. Il va la sauver comment? Eh ben, il revient dans le temps, au moment où elle meurt, ce qui est strictement interdit. Il repère l'instant précis où il peut la sauver, et il saute, il la pousse dans une direction, il ressaute, il apparaît à un autre point de l'espace-temps, et petit à petit, en faisant des sauts, en se voyant lui-même, parce qu'il apparaît au même moment en plusieurs exemplaires, ce qui est strictement interdit, parce que le danger, c'est de ne plus savoir où on est, de faire des, pas des boucles de causalité, mais des nœuds de causalité. Et il réussit, grâce à sa rigueur, à sa concentration, à la sauver des chutes. Et elle se réveille dans ses bras et lui sourit. Enfin, et avec dans ses bras, puis il est venu, elle va à la droite, c'est mieux. Et on va voir Bon, soit bien clair, que les choses soient bien claires. Ce que je vous raconte là en détail, vous allez le découvrir si vous avez la curiosité de lire ces livres, ce n'est qu'un des fils de l'intrigue. Ce n'est qu'un des fils de l'intrigue, mais je vous ai dit, c'est celui qui colle au destin du personnage, en même temps que toutes les aventures, toutes les déconvenues qu'il a durant ses missions, durant ses périodes de repos, durant ses relations avec ses supérieurs, etc. J'insiste là-dessus parce que, honnêtement, je ne savais pas sur quel public j'allais tomber. Je me suis dit, si j'ai des fanatiques de Poul Anderson, je ne vais pas leur raconter ce qu'ils savent déjà. Donc, je vais essayer de trouver du nouveau. Voilà. Mais ça ne se limite pas à ça. Ce que je vous donne, c'est le fil d'une tapisserie, comme dirait Peter Lielke. Hein. Il y en a plein d'autres. Donc, pour en revenir à la suite des aventures de Van Severin, donc, je vous ai parlé des exaltationnistes, et la première fois qu'ils les rencontrent, donc des exaltationnistes, je vous dis, sont clonés. C'est dans la Tyr du 10e siècle avant Jésus-Christ, période de splendeur de Tyr, où là, les exaltationnistes ont trouvé un moyen de détourner l'histoire. Heureusement, les patrouilleurs en poste ont réussi à prévenir, Mans arrive. Malheureusement, il se fait repérer tout de suite parce que, bon, on attendait quelqu'un comme lui. Il y aura tout un tas de mésaventures. Il finira bien évidemment par contrer la menace, mais en chemin, il aura rencontré trois personnes qui vont beaucoup compter pour lui. La première, alors, d'après Poul Anderson, et l'histoire atteste que c'est vrai, il y avait dans la Tyr de cette époque, mais je crois que c'était la déesse Astarté ou équivalent, une vierge devait attendre dans le temple jusqu'à ce qu'un homme fasse d'elle une femme, et après elle était libérée de cette obligation. Et elle pouvait continuer sa vie. C'était accepté, ça fait partie des coutumes. Donc, Mans Everard a la bonne idée d'aller dans le temple et de repérer une femme quelconque qui attend là depuis des années en pensant qu'elle lui sera reconnaissante. Ce qui est effectivement ce qui se produit. Donc, c'est un peu de cynisme, mais il finit par être ému par la reconnaissance de cette femme. En même temps, comme Mans Everard s'est fait passer pour un important marchand venu d'Occident, on lui offre une esclave pour distraire ses nuits. Et cette esclave, c'est une femme du harem du souverain, une européenne, c'est-à-dire une blonde, alors je sais plus, une celte, qui a déjà deux enfants du roi, qui se morfond, et qui sent que bientôt sa place, elle sera trop vieille, on l'enverra en cuisine, ses enfants sont vendus en esclavage, etc. Et le personnage le plus pittoresque que rencontre Mans, c'est un radéqué, c'est-à-dire un jeune ado qui est orphelin, qui a été mendiant, voleur, etc. Et qui là, maintenant, il repère un touriste et dit, il va avoir besoin de moi. Et donc, il propose ses services, je peux vous aider à faire ceci. Bon, Mans, ça le fait rigoler. Et en fait, il s'aperçoit que ce gamin, bon, il est ado maintenant, il a une intelligence prodigieuse, une grande débrouillardise, qui s'est observé, qui a repéré des trucs, et on sent poindre en lui une tendresse qu'on doit en avoir pour un fils. Et à la fin, c'est Poum qui sera l'instrument du dénouement où l'histoire retrouve son cours, parce que après lui avoir un peu expliqué ce que c'était que voyage dans le temps, etc., bon, après le choc initial, Poum il comprend un peu, il le renvoie dans le passé, où il peut se faire embarquer comme mousse sur un bateau dont la submersion a entraîné la mort de quelqu'un qui a changé le cours de l'histoire. Et donc, Poum, non, c'est plutôt ça, ouais, enfin, il y a un détail comme ça, c'est grâce à Poum qui sauvera la ligne temporelle. Et à la fin, il fait de Poum l'agent de la patrouille du temps, le représentant à cette époque-là. Et il dit, en plus, sois content, tu vas avoir deux femmes. Ah oui, deux femmes, oui, les deux femmes que Mans commence. Auquel Mans ça a été attaché. On vous a dit que c'était un agent non attaché. Bon. Et là, il va se passer ensuite une chose qui, dans l'évolution de Mans, va être déterminante. C'est-à-dire qu'il va après avoir rencontré son double maléfique, il va rencontrer son double féminin. C'est-à-dire, pour une mission assez complexe, il va l'amener dans la Germanie du 1er siècle. Il va rencontrer une agent de la patrouille, une patrouilleuse, dont la spécialité est l'histoire de cette période, qui a repéré une anomalie, qui semble liée à l'apparition d'une prophétesse germaine qui va ralentir les évolutions des troupes des Romains, les guerres des Romains contre les Germains, etc. Et en voulant explorer à rebours, la vie de cette prophétesse, c'est-à-dire donc ils l'apprennent sur la fin de sa vie, etc. Mais ils se disent, comment se fait-il qu'elle ait autant de vigueur, de charisme, que les gens la suivent? Elle a dû avoir quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et ils font la bêtise, que fait aussi notre patrouilleur dans le récit, je n'ai pas parlé, ils font la bêtise de ne pas respecter la chronologie, ils remontent le temps, et ils assistent à l'événement fondateur, c'est-à-dire sur l'île, je crois que c'est sur l'île de Gotland, où vit cette jeune fille qui est encore adolescente avec un garçon qui traîne à sa place et qui est amoureux d'elle. Il voit apparaître des marins, il les salue, les marins l'accostent et la violent. Il la viole, ils tiennent le garçon, ils le tabassent, et en haut, nos deux patrouilleurs, déguisés en guerriers de l'époque, qui observent ça, et la patrouilleuse ne peut pas se retenir, elle fonce. Elle pulvérise tout ça à coups de rayon de la mort, et les deux, le gamin et la fille, la prennent pour une déesse. Ils s'aperçoivent que c'est ça qui a fondé le psychisme de la prophétesse. C'est-à-dire qu'ils ont créé le phénomène même qu'ils étaient venus étudier. Et ça, on le retrouve dans une précédente nouvelle, que j'ai oublié de citer, qui s'appelle Le chagrin d'Odin de Goth, où là, c'est un homme qui étudie la mythologie germanique et qui essaie de déterminer la naissance et l'élaboration d'une certaine légende et qui fait exactement la même bêtise, c'est-à-dire qu'il apparaît à divers points où les personnes dont ils pensent qu'ils ont inspiré la légende la jouent, enfin, disons qu'ils ont des agissements qui inspirent la légende, donc il apparaît, il prend des notes, etc. Puis au bout d'un moment, il commence à être familier. Et donc il décide de revenir aux origines, il revient aux origines de la génération précédente pour voir la genèse, etc. Et il prend l'habitude d'apparaître régulièrement, de 10 ans et quelques, comme s'il revenait, donc sous la forme d'un vagabond, avec une grande cape, un grand chapeau sur les yeux et une grande barbe. Le chagrin de Dean de Goth. Et il ne s'en rend pas compte. Il est tellement dans son truc, et puis arrive ce qui doit arriver. Un jour, il arrive au village, et l'enfant de 6 ou 7 ans qu'il avait vu lors de son précédent passage, c'est une superbe jeune fille. Et comme le père du village, le chef du village, le prend pour un grand sorcier, c'est une bonne alliance. Et donc, il donne sa fille en mariage. Et en fait, il comprend au bout d'un certain temps, parce qu'il est tellement dans son truc, que la légende qu'il est censé étudier, ce sont ses descendants qui vont la vivre. Et la légende se finit par la mort des deux frères, qui sont en fait ses petits-enfants. Alors là, grosse crise. Et au moment où il commence à se rendre compte de ça, alors il y a des allers-retours entre l'époque de la Germanie et le 20e siècle où il demeure, il y a des entretiens avec Van Sedora. Bon, je ne vais pas pouvoir tout vous raconter, c'est horrible. Il y a des entretiens avec Van Sedora, et c'est Van Sedora qui finit par le forcer à aller jusqu'au bout de son péché. Bon, et je suis désolé, je me suis laissé emporter, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Alors, on va laisser passer, on va laisser la parole venir d'un autre. Je vous ai raconté en fait que les deux tiers de la saga. Et il faut savoir que ce pauvre Mans va bientôt arriver au bout de ses peines, parce qu'il va rencontrer une jeune fille qu'il va avoir l'occasion de sauver lors d'une mission particulièrement chevelée, à laquelle il va trouver les mêmes qualités qu'il avait trouvées à Hood. C'est-à-dire que, bon, déjà, d'une part, les circonstances ont fait qu'elle a découvert l'existence de la patrouille, et il va en faire de lui, va faire de lui une patrouilleur temporelle. Sa première mission, elle va avoir les mêmes emmerdements, précédemment, que tous les gens qui l'ont précédé. Et pourquoi ils ont tous ces emmerdements? Parce qu'ils s'attachent. Alors que Mans Sedora, lui, c'est un homme attaché, enfin, c'est lui qui l'a dit. Et donc, Wanda va sauver la situation après avoir résisté victorieusement au harcèlement de son supérieur. C'est très moderne. Et Mans va finir par tomber amoureux d'elle. Et leur toute dernière grande mission, qui est le bouclier du temps, va leur présenter un problème jusque-là inconnu. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu un problème, c'était soit l'intervention du pirate, soit les manipulations du navigateur. Mais comme l'a dit Xavier Mauméjean dans un article qu'il a consacré à Saya, l'usure du temps finit par se sentir. C'est-à-dire que maintenant, il y a eu tellement de manipulations le long de la ligne historique qu'il suffit qu'apparaisse un personnage dont le destin est un tel pivot que s'il boit son verre de la main gauche ou de la main droite, c'est une image, l'histoire change de cours. Et le dernier bouquin, il s'appelle Le bouclier du temps. Comment dire, c'est à ce moment-là que Mans et Wanda comprendront qu'ils s'aiment, va poursuivre sur la même, le même fil avec les mêmes images, puisque bon, par deux fois, Mans tentera d'éliminer l'influence de ce pivot temporel, la deuxième fois, ils seront obligés de le tuer. Pourquoi ils seront obligés de le tuer? Parce que ce jeune homme italien de la Renaissance est très catholique, et au moment où Wanda se laisse séduire, en ayant un peu affiché alors qu'il est fiancé sur le point de se marier, Mans et Brand apparaît déguisé en ange, et l'autre ne se laisse pas avoir, il vérifie que ce n'est pas un ange, pas le toucher. Voilà. Donc je prends mon avis, ce genre de détail, ce n'est pas choisi maintenant. Et en fait, on comprend à la fin pourquoi l'union de Mans et de Wanda est importante, pourquoi le personnage de Mans est important, pourquoi l'émission qu'on nous a montrée est importante, parce que Manderson nous en donne en filigrane quelques autres. Et on comprend ça pourquoi, pour quelle raison? Parce que les échelons les plus élevés de la patrouille semblent éprouver un intérêt hors du commun à la fois pour Mans et pour Wanda. Ils se font interroger discrètement sur leur mission, etc. Et pour moi, la solution est tout trouvée. Mans et Wanda vont avoir un enfant. C'est de cet enfant que vont descendre les Damien. C'est-à-dire qu'on a affaire, à mon sens, au paradoxe temporel, la boucle temporelle la plus sophistiquée de l'histoire, où c'est l'agent de la patrouille du temps que l'on nous a décrit agissant dans le cadre de ses fonctions qui sera à long terme le responsable de la création de la patrouille du temps. Voilà, je vous laisse y réfléchir, c'est proprement vertigineux. Et je le répète, la saga ne se limite pas à ça. Si vous adorez les romans historiques, vous allez être servi, parce que c'est des romans historiques, pas des textes historiques, vus par une lorgnette très spéciale, mais qui fait apparaître les choses d'une façon tout à fait nouvelle. Je vous remercie de votre attention, je vous prie de m'excuser d'avoir un peu changé sur la fin. J'avais dit en 3 ans, je vous avais dit en annonçant, je n'aurai pour 2-3 heures. Merci bien.
Merci à vous.
Et donc, si vous ne connaissez pas Poul Anderson, je suis à vous. Bon, écoutez, La Patrouille du Temps, je ne veux pas vous engager à acheter tout d'un coup, mais les 4 volumes sont disponibles au livre de poche. Vous pouvez déjà tenter le premier. Et je ne vous ai pas parlé de ces empires galactiques. Ça aurait été pour la 3e heure.